Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM Plus, fréquence 91 à Montpellier, sur Alliance Plus, fréquence 103.1 à Nîmes, et qu'on peut écouter sur Internet sur le site radiofmplus.org. Je souhaite aujourd'hui présenter dans Jardin d'Isis Jocelyne Feuille. Bonjour Jocelyne.
Bonjour Marie-Agnès.
Animatrice autour du programme artistique des programmations culturelles à la Maison pour tous Albertine Sarrazin et Georges Sand, qui organise des voyages culturels, des soirées poétiques et littéraires, des expositions, également des goûters poétiques dans un club de l'âge d'or de la ville de Montpellier. Alors Jocelyne, nous allons aujourd'hui aborder pour nos auditeurs l'œuvre et la vie d'une grande dame de l'écriture pour laquelle Jocelyne se passionne. Cette dame...
Juste, je me permets d'intervenir. Oui, effectivement, je travaille en quelques mots sur la Maison pour tous Georges Sand. Et nous sommes un collectif, une équipe qui organise des rencontres littéraires et artistiques sur deux Maisons pour tous. C'est-à-dire qu'on travaille en transversalité. Et sur cette transversalité, nous organisons une sorte de rencontre trimestre qui s'appelle des rencontres et des livres. Voilà, mais c'est autour d'un collectif et j'y participe avec beaucoup d'intérêt.
D'accord. Et nous te suivons régulièrement. Nous sommes heureux de participer à ces découvertes poétiques et littéraires. Nous allons aujourd'hui aborder donc l'œuvre et la vie d'une grande dame de l'écriture et de l'insurrection poétique. Il s'agit d'Albertine Sarrazin, partie prématurément, décédée à l'âge de 30 ans en 1967, qui a vécu quelque temps dans la région à Montpellier, au Mattel plus précisément, où son corps repose. Albertine Sarrazin a obtenu le prix des quatre jurys qu'elle est allée chercher à Tunis, dans l'Afrique du Nord de son enfance. Alors, je passe la parole à Jocelyne pour nous donner quelques lignes de la vie d'Albertine.
Oui, alors, dans sa brève vie, puisqu'elle a eu une vie très brève, elle est née le 17 septembre 1937 et décédée le 10 juillet 1967, ce qui lui fait à l'âge de 30 ans. C'est une personne qui a écrit trois romans, donc elle a eu le temps de les écrire, dans laquelle elle raconte sa vie qui a été une vie, on peut considérer, d'aventureuse, hein, mais transfigurée. Cette jeune fille qui était rebelle, qui était toujours en fuite, on l'appelait aussi la délaissée, elle a pris le dessus pour s'accrocher à l'écriture et elle a maintenant une place en relief dans la littérature française contemporaine. C'est un personnage romantique mais aussi d'extrême. Elle est née donc en Algérie de parents inconnus, mais après une vie brève et intense, elle a fait de sa vie, elle a pris un chemin, j'allais dire, de traverse, puisqu'elle a vécu dans la marginalité. Alors je vais peut-être un petit peu en quelques mots expliquer, hein. Albertine est née en fait sous le prénom d'Albertine, qui était sur son acte de naissance, et le nom de Sarrazin ne vient que beaucoup plus tard, lorsqu'elle épousera Julien en 1959. Elle a été déclarée l'assistante publique donc et déposée au bureau de l'assistante publique d'Alger en 1937 et elle est adoptée ensuite en 1939 par une famille qui lui donne un nouveau nom et qui change le nom d'Albertine par Anne-Marie. Elle s'appellera aussi Annick après Julien, son futur mari l'appellera Annick et son nom de famille deviendra Damien. En octobre 1956, il y a eu une révocation de l'adoption par ses parents adoptifs. Je peux expliquer en quelques mots pourquoi, parce que malheureusement, Albertine était une enfant avec une forte personnalité et qui ne cadrait pas avec ses parents adoptifs qui étaient âgés. Le père était un ancien militaire et elle a su, à l'âge de 7 ans, lorsque elle avait fait, je pense, une bêtise et que son père a voulu la corriger, il y a dit « Nous t'avons sorti du ruisseau, tu n'étais rien ». Et là, elle a compris que ce n'était pas ses vrais parents. À partir de ce moment-là, elle va se rebeller et se retirer un petit peu de cette famille. Et donc, elle va se retrouver en maison de redressement à l'âge de 14 ans. Elle aura connu aussi la prostitution et le vol. Elle passera 8 ans en prison. Le désir d'écrire la soutient et la sauve. Et déjà, en prison, elle écrit deux romans autobiographiques. Elle a une emprise immédiate sur les autres par son écriture. Son style enchante et nous fait participer à sa vie. On la définit comme un auteur de race, authentique. La traversière raconte la liberté, les difficultés et les chutes, le rêve de vivre à la campagne avec l'homme qu'elle aime, Julien, et qui va l'aider lors de sa cavale. Dans La Traversière, elle évoque le contact avec le monde littéraire parisien, qu'il avait accepté, surtout parce que celui-ci avait reconnu son talent inné. Surprenante, contemporaine, l'aventure existentielle et littéraire d'Albertine continue à exercer son charme sur de nouveaux lecteurs actuellement. J'aurais aimé, par l'introduire, si c'était possible, Marie-Agnès, juste dire un texte qui reflète un petit peu son cheminement. Merci. Les chemins de traverse. Il était une fois, parmi les chemins de traverse, une jeune enjôleuse qui souhaitait faire de sa vie non pas une tanière, mais un oratoire. Le destin ne nous amène toujours pas là où on le souhaiterait. La geôle, elle connaît, c'est son journal intime, mais une partie d'elle-même est restée intacte. En prison, elle écrivait des bifetons bien roulés, camouflés et destinés à son enchanteur. Aujourd'hui, elle poursuit l'œuvre de la Dentelière. Elle rayonne au grand jour, laissant l'ombre du passé dans la mémoire du souvenir. Mais ses lettres et ses poèmes sont bien là, immortels.
Je crois que tu souhaitais maintenant nous lire une lettre qui était destinée à sa mère.
Oui, effectivement, Albertine a écrit cette lettre à l'âge de 14 ans, où à un moment donné, elle était dans la recherche et un peu dans le désespoir, parce que cette mère vraiment biologique lui manquait. La mère adoptive a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a été là même pendant toute la période où Albertine était en prison, mais elle n'avait pas les mots qu'il fallait pour l'aider peut-être à prendre un chemin meilleur. Donc, elle a écrit ce poème en 1951. Maman ? Maman ! C'est à elle que j'ai dédié mon premier poème. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que les autres. Celles-là sont heureuses de comparer une photographie jaunie à celle toute fraîche qui sort de chez le marchand. Elles y constatent avec joie la manifestation imperceptible d'une attitude. Un mouvement fugitif, un rien. Moi, je suis une petite créature isolée et détachée. Jamais je ne saurai le visage de ma mère. Peut-être est-elle heureuse, joyée. Hélas, ne m'aurait-elle pas laissée pour que je vive? Elle serait alors dans la terre froide et les fleurs fanées se seraient envolées au vent d'automne. Ce vent qui passe sur les tombes comme un manteau traînant. Ce vent qui inspire les cyprès, ce vent qui pleure dans l'orgue des montagnes sonores, ce vent qui pleure dans la nuit. Maman, je voudrais tes bras aimés, ta bouche consolante, tu es maman. Tu peux être criminelle, débauchée, tout le monde peut bien te renier. Tu n'es pas seule. Ici, petite lumière obscure, je t'appelle les soirs de lassitude et de remords. Entends-tu la voix de mon cœur volontaire? Tu n'es pas loin de moi. Tu es à l'autre bout du monde. Tu m'as oublié ou tu me maudis? Peut-être ai-je gâché ta vie. Pardon, maman, tu me l'as donnée. Je tâcherai de t'en demeurer toujours reconnaissante. Oh, chère maman, quand je suis seule et que je pense à toi, je voudrais ta présence toute proche. J'aimerais que tu sois belle, aimée, car je ne veux que ton bonheur. Qu'importe si tu as dû me laisser ignorer aux autres, tu seras pardonnée, parce que vois-tu, tu as créé quelque chose qui vibre, qui bouge, un être humain, le chef-d'œuvre de Dieu.
J'ai le souvenir d'une nuit. Une nuit de mon enfance. pareille à celle-ci. Une longue nuit de silence, moi qui ne me souviens jamais d'un pensée qui m'importune. C'est drôle, j'ai gardé le secret de cette longue nuit sans lune. J'ai souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci. Une longue nuit de silence. Soudain, je me suis éveillée. Il y avait une présence. Soudain, je me suis éveillée. Dans une demi-somnolence, c'était au dehors. On parlait à voix basse, comme un murmure, comme un sanglot étouffé. Au dehors, j'en étais sûre. J'ai souvenir qu'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, froide et lourde de silence, j'allais à demi éveillée, longeant une allée obscure. J'allais à demi éveillée, guidée par l'étrange murmure. Il y eut, je me le rappelle, surgissant de l'allée obscure, il y eut un bruissement d'ailes là, tout contre ma figure. C'était au cœur de la nuit, c'était une forêt profonde, c'était là comme cette nuit, un bruit sourd venant d'outre-tombe.
Albertine, c'était une hirondelle sur un fil. Elle ne pouvait qu'avoir un destin hors du commun. Elle aurait senti des chaînes. Il fallait toujours une porte ouverte, écrit-elle dans La Traversière. L'œuvre d'Albertine est multiple. Elle écrit des romans, L'Astragale, La Cavale. Le plus connu, L'Astragale, a été écrit en prison à Alès, pour 4 mois en prison pour avoir volé une bouteille de whisky, alors que son mari était emprisonné. Elle qualifie L'Astragale de petit roman d'amour pour Julien. Ce roman a été édité par un ami d'Albertine, Jean-Jacques Pauvert. En quelques semaines, Albertine devient célèbre. Elle n'a que 28 ans. Elle a encore un roman à écrire, La Traversière, et 2 années à vivre. D'elle, nous aurons gardé des pages intimes sous forme de carnet de bord ou journal, des lettres, de la poésie, des poèmes chantés par une de ses amies après sa mort, des scénarios de films réalisés après son décès également, et maintenant un film sur sa vie va sortir très prochainement au mois d'avril. Nous allons lire quelques textes autour de la prison.
Oui, alors je voudrais préciser juste que l'accompagnement autour des éditions Jean-Jacques Pauvert s'est fait particulièrement avec un associé donc de Jean-Jacques Pauvert, Jean-Pierre Castelnau. Et c'est lui qui a permis la réalisation de l'Astragale, enfin qui sort en édition, L'Astragale, La Cavale et La Traversière. Et il y a un très beau parcours dans la biographie de Josanne Duranteau, qui a été écrite il y a très longtemps, puisque c'était aux éditions Sarrazin, juste après la mort d'Albertine, où il y a donc des lettres entre Jean-Pierre Castelnau et Albertine, pendant tout le long, où elle préparait notamment son roman qui était La Traversière. D'autre part, je voudrais citer juste quelques mots concernant les biographies. Il y a donc cette biographie de Josanne Duranteau qui est vraiment complète et magnifique, mais il y a d'autres auteurs contemporains qui se sont intéressés à Albertine Sarrazin, et notamment un auteur parisien, Jacques Layani, qui a écrit une très belle biographie sur Albertine Sarrazin. Il y a également Éric Vilboux, qui est un homme de théâtre et qui vit sur Strasbourg, et il y a un film qui a été fait il y a quelques années, que j'ai beaucoup apprécié, par une personne qui vit sur Strasbourg aussi, c'est Sandrine Dumaret, qui qui a fait un film sur Albertine Sarrazin, et j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques années à Montpellier, puisqu'elle est venue tourner aussi à Montpellier des scènes autour d'Albertine, enfin retrouver le cheminement d'Albertine, notamment sur Montpellier, la cité du Petit Bar et l'oratoire au Matel.
Et je souhaitais te poser la question, savoir quels sont les hasards de l'existence qui t'ont fait croiser cette route semée d'embûches, suivie par Albertine et qui ont fait que tu te passionnes pour sa vie, son
oui,
œuvre.
Alors là, je vais délivrer un peu de mon jardin secret. J'ai lu Albertine Sarrazin, je devais avoir 14 ans ou 15 ans. Et ce qui m'a beaucoup surprise aussi, c'est que je l'avais lu pratiquement en parallèle avec le journal d'Anne Frank. Et ces deux personnes m'avaient vraiment marquée à ce moment-là. Et je pense que ça a fait un cheminement parce que beaucoup plus tard, donc j'avais lu L'Astragale hein, à ce moment-là, et beaucoup plus tard, je suis revenue à Albertine Sarrazin. J'ai eu l'opportunité de m'occuper pendant 5 ans d'un lieu qui était une librairie-galerie d'art à Montpellier. Et à ce moment-là, j'ai souhaité vraiment qu'elle porte son nom. Et donc, je savais que Julien Sarrazin vivait au Matel. Je ne le connaissais pas, mais j'ai pris contact avec lui, d'abord pour lui demander l'autorisation, et ensuite pour que nous nous rencontrions. Et ce fut vraiment une très belle rencontre. Je l'ai suivi pratiquement, Julien, juste avant son décès, qui a été donc... Julien est décédé en 1992, si je ne me trompe pas, ou 93. Et ça m'a permis aussi de découvrir Albertine autrement, puisque Julien a eu la générosité de me donner, hein, de m'offrir des livres qui ont été édités aux éditions Sarrazin après la mort d'Albertine Sarrazin, qui étaient autour donc, de ses lettres, notamment de ses poèmes, de son journal intime. Voilà.
Nous allons découvrir quelques textes autour de la prison, la cavale.
Oui. Avant ma cavale, j'ai tenté de me suicider, mais je me suis toujours loupée. Je me suis suicidée après les assises, tout le monde a cru que j'avais peur de ma peine, que je m'étais suicidée par lâcheté. Ça cadrait bien avec le personnage qu'on avait décrit aux assises. Mais ce n'est pas du tout pour ça que je me suis ouvert les poignets. C'est parce que j'étais absolument écœurée de moi telle que je me découvrais. Après tout ce que j'avais entendu, je n'avais plus qu'à disparaître. Cette espèce de petit monstre inconnu, c'était moi tout d'un coup. Je pensais qu'il fallait le détruire. La cavale, c'est mon évasion. C'est aussi dans mon livre un tas d'autres choses. L'évasion, toute matérielle du début, il devient vers la fin une espèce de monture, de sale bête. L'astragale, ça a aussi pas mal de sens. Mais enfin, cet astragale-ci, c'est un os de la cheville, un os que j'ai perdu à la suite d'un accident en sautant le mur de la prison. On est menacé d'oublier très vite la prison quand on en sort et qu'on n'y vit plus. C'est pour ça que j'ai écrit la cavale. Il ne faut jamais oublier la prison. C'est le seul moyen de ne pas y revenir.
Autour de l'écriture aussi, tu vois. Texte.
Oui, elle écrivait beaucoup. Elle écrivait des choses très fortes, et notamment en prison, ce qui lui permettait aussi d'aller au-delà des barreaux et des grilles. J'ai le désir d'écrire, non pas pour détruire certains mythes de toute façon indéracinables concernant les milieux que je décris, mais pour compenser tout ce que j'ai vécu de raté, de douloureux ou de sale, et pour fixer le reste. Tout ce que j'ai vécu de douloureux ou de sale ne peut être accepté par tout le monde. Mais ce qui importe, c'est moi qui puisse l'accepter, comme une photo ratée, que l'on colle quand même dans l'album, parce qu'elle vous représente un jour où vous étiez heureuse.
Un dernier texte.
Merci, Marie-Gneste. Écrire sa vie, c'est travailler contre ce qu'elle est. Ce n'est pas la subir, c'est la ployer. C'est la forcer à devenir ce qu'elle n'était pas, une œuvre d'art.
Et maintenant, un écrit autour de la liberté.
La liberté, telle qu'on la pense en prison, c'est surtout une liberté de geste. C'est la liberté de boire, de manger, de dormir, de courir. Voilà la liberté à laquelle on pense, alors qu'au fond, ce n'est pas du tout ça la liberté. Moi, je ne me suis jamais sentie enfermée, même là-bas. J'étais libre de penser ce qui me plaisait. Le symbole de la liberté, c'est aussi pour moi de dormir. Dormir, c'est formidable. Ce qu'on peut être fatigué dans une vie où on ne fait pratiquement rien, où on ne marche pas, où on est enfermé toute la journée. On n'a qu'une idée en sortant, c'est de dormir, de se reposer. Maintenant que je suis libre, je fais des grasses matinées qui vont bien au-delà de 6h30. Mais je me lève quand même tôt. La grasse matinée, c'était une envie de prison. Mais vous savez, là-bas, on a des tas d'envies. On dit comme ça, demain, j'irai manger à tel endroit, et on voit en rêve tout ce qu'on va manger, tout ce qu'on a. Mais quand on l'a à portée de la main, on n'y pense plus. Ce qui était vraiment des obsessions devient de simples possibilités. On n'est plus pressé de les réaliser. On a toute la vie. Je ne pense pas que les gens libres apprécient comme nous la liberté. Nous en avons été privés si longtemps que nous pouvons regarder toute chose avec des yeux neufs et attentifs. Pour moi, la liberté aujourd'hui, c'est de ne plus compter les jours. Le monde que j'ai trouvé en sortant de prison a changé dans la mesure où moi, j'ai changé. On n'a pas le même regard à 28 ans que l'on en avait à 15. Une femme de 40 ans qui ressort à 48, c'est quand même pas pareil qu'une gosse de 15 ans qui ressort, comme on dit, majeure et vaccinée. C'est moi qui ai changé. Le monde est toujours pareil. Les arbres sont les mêmes, les fruits ont le même goût, et les gens ont toujours le même air. L'air apathique, l'air résigné. La plupart du temps, l'air pas plus libre que moi quand j'étais en prison. Mais je crois dans le pouvoir de la volonté et de l'enthousiasme.
Le 10 juillet 1967, Albertine Sarrazin, qui avait à peine 30 ans, mourait de façon absurde sur une table d'opération à Montpellier. Les milliers de lecteurs qui venaient de découvrir son œuvre eurent le sentiment confus que ce destin tragique n'était pas insolite pour cette petite bonne femme dont la vie avait été tissée dans le drame. Et pourtant, Albertine Sarrazin n'était ni une désenchantée, ni une désespérée. Elle était au contraire gourmande de vie et heureuse, puisque ni la haine, ni la rancune ne portaient une ombre sur son bonheur tout neuf. C'est ainsi qu'elle apparaît dans ses premiers entretiens, confiants et sincères, qu'elle eut avec Jean-Pierre Elkabbach dès après que sa renommée littéraire fut acquise. Voici donc Albertine Sarrazin. La voici présente, expliquant sa vie, expliquant son œuvre.
La cavale, c'est l'évasion. Alors, la cavale raconte de façon très détaillée, trop détaillée peut-être, même toutes les façons dont on dispose pour s'évader d'une prison. L'évasion matérielle, celle qui rate souvent, le rêve, enfin, les cavales à un ou à plusieurs. Et comment cette cavale, toute matérielle, géométrique, devient vers la fin une abstraction, un rêve, une obsession en fond, vous voyez, une obsession en fond de tableau qu'il suffit de garder à l'intérieur de soi pour éviter la résignation, l'avachissement.
Comment écrivez-vous ?
Très vite. J'écrivais sur des cahiers d'écoliers, très petits, très serrés, pour gagner de la place. Et c'est des bouts de papier que je passais à mon avocat dans des lettres.
Avez-vous d'autres projets ? Est-ce que vous avez l'intention d'écrire une nouvelle fois ? Pensez-vous que ces bouquins représentent une fin ou au contraire un début ?
Oui, ces bouquins représentent la fin d'une expérience, la fin de mes prisons. Enfin, je ne peux que l'espérer. Mais ce ne sera certainement pas la fin de mon désir d'écrire. J'écrirai encore, j'écrirai toujours.
Vous avez quel âge maintenant?
Maintenant, j'en ai 28. Je viens d'en avoir 28.
Vous avez passé combien de temps en prison? Vous êtes mariée en prison?
Je me suis mariée en prison.
Vous avez eu l'occasion de voir souvent votre mari pendant ces années de...
Au parloir. Au parloir, mais enfin, la vie commune, la vie conjugale, comme on dit, nous ne la vivons que depuis août dernier, enfin 14 mois.
Et vous êtes mariée depuis?
Nous nous connaissons depuis plus de 8 ans. Ça fait peu.
Qu'est-ce que la société pour vous?
La société, c'est une chose que j'ai acceptée parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et à laquelle je sais bien que je ne serai jamais tout à fait intégrée, sinon en apparence. Enfin, je l'accepte parce que j'ai plus le choix.
Et vous ne serez pas intégré par la faute des membres de cette société ou par votre propre faute?
Non, pas, ni par leur faute, ni par la mienne, mais parce qu'il y a quand même un tas de choses qui marquent, qui ne peuvent pas s'effacer, tout au moins aux yeux de cette société.
Est-ce qu'il est difficile pour une sortante, comme vous dites, de se retrouver dans la vie?
Il est assez difficile. Enfin, tout dépend de ses qualités intérieures. On se retrouve très bien ou on se retrouve pas. On a le vertige ou alors on a une impression de toujours vu, de tout naturel. Mais enfin, je parle socialement. Il est extrêmement difficile à un détenu sortant de prison de se relever. Je veux dire, de retrouver une situation.
Est-ce que l'extérieur, enfin la société, facilite les choses quand vous sortez de prison?
Non, elle vous facilite les choses. Elle vous donne... un bon pour 10 francs à aller chercher au commissariat du coin, elle vous donne... C'est ça. Elle vous donne un carnet d'interdiction de séjour à aller faire tamponner tous les deux mois au commissariat du coin. Ça ne se produit pas pour tous les détenus. Enfin, c'est le cas de... Ça peut être le cas de ceux qui ont déjà 3 condamnations.
C'est votre cas?
Et c'était mon cas, et c'est toujours mon cas, d'ailleurs.
Vous êtes toujours interdit de séjour à Paris?
Je suis toujours interdit de séjour à Paris. J'ai des autorisations temporaires pour aller voir mon éditeur, parce qu'il faut quand même ce qu'il faut. Je reste quand même interdite et astreinte à signer tous les deux mois mon carnet au commissariat du coin.
Est-ce que la haine est un sentiment que vous connaissez?
Oui, je le connais, mais je ne l'éprouve plus. La haine d'abord est stérile et secondaire est fatigante. Je ne veux plus me fatiguer avec des sentiments extrêmes. Je n'ai pas en moi de haine, je n'ai pas de passion. J'aspire à continuer la vie que j'ai entamée l'année dernière. À vivre libre, libre de faire, non pas de faire ce qui me plaît, mais enfin de faire ce que j'aime, de fréquenter des gens qui sont agréables, des gens qui me reposent le cœur, et de continuer à écrire, à travailler, à voir des choses.
Est-ce que cette liberté-là est celle à laquelle vous pensiez lorsque vous étiez de l'autre côté des murs?
La liberté, enfin, telle qu'on la pense en prison, c'est surtout une liberté de geste, c'est la liberté de boire, de manger, de dormir, de courir. Là, la liberté à laquelle on pense, alors que, au fond, c'est pas du tout ça, la liberté. Moi, je me suis jamais sentie enfermée. Même là-bas, j'étais libre. J'étais libre de penser ce qui me plaisait.
J'espère que cette émission vous a donné l'envie de découvrir par vous-même l'œuvre d'Albertine. Comme le temps était un peu bref, nous nous retrouverons dans une quinzaine de jours pour un prochain Jardin d'Isis autour de la fin de la vie d'Albertine Sarrazin, sa rencontre avec Julien, la correspondance qui a été échangée entre Albertine et Julien, des lettres de Julien également... Enfin tout, et puis sa poésie que nous n'avons pas malheureusement pas eu le temps de lire des poèmes. Donc nous nous retrouverons autour d'Albertine Sarrazin avec Jocelyne. La biographie dont je me suis inspirée, que j'ai lue, que j'ai parcourue, concluée par ces mots, l'expérience humaine d'Albertine était aussi noire que sa culture littéraire était claire. Le bon mélange pour entrer pieds et poings enfin déliés dans l'immortelle beauté artistique. Vous pourrez retrouver Jardin d'Isis et son poète vivant. Dans notre région et ailleurs, chaque deuxième et troisième jeudi du mois, de 12h15 à 12h45 sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, et sur Alliance+, fréquence 103.1 à Nîmes. Vous pouvez nous contacter en téléphonant au 04 67 63 11 22 ou réécouter l'émission sur le forum Georges Brassens, forum Jardin d'Isis, ou sur le site www.poesiejardindisis.fr, tout en minuscules.